sans détour avec Élisane Pellerin.
Bonjour, bienvenue à Sans Détour. Cette semaine, on s'entretient avec Samuel Lachaine, notre chroniqueur, pour nous parler des Jeux paralympiques. On reçoit par la suite Jean-François Rancourt, analyste de politique publique et conseiller en défense des droits de la Société québécoise de la déficience intellectuelle, pour nous parler du manque d'accommodement dans les prisons. Et on s'entretient avec Émilie Charbonneau, première vice-présidente de l'APDS, concernant la dégradation des soins aux personnes aînées. Bonne émission. C'est le retour de notre chroniqueur Samuel Lachaine. Bonjour Samuel.
Salut, ça va bien, Lisanne?
Ça va bien, toi?
Ben oui, ça va super bien.
Tu viens nous parler de Jeux paralympiques aujourd'hui.
Oui, exactement. On sait évidemment qu'au cours de l'hiver, les Jeux olympiques s'en viennent au mois de février. Et comme à chaque année, on sait qu'aux Jeux olympiques, il y a ensuite les Jeux paralympiques qui suivent. Donc, ça va avoir lieu cette année, 6 au 15 mars 2026. Du côté de Milan à Cortina, c'est donc en Italie encore une fois. Je rappelle que en 2006 également, il y a eu des Jeux représentant l'Italie. C'était à Turin à l'époque. Là, maintenant, ce sera donc à Milan Cortina, donc pour les 14e Jeux paralympiques de l'histoire.
Il y a pire comme destination quand même?
Oui, oui, oui. Puis surtout dans les montagnes, là. C'est un beau coin justement pour aller faire les sports d'hiver qu'il va y avoir durant ces Jeux paralympiques. Il y a eu aussi les premiers Jeux justement en Italie, en 1960, c'est là que les Jeux d'été ont commencé paralympiques. Et ça fait ensuite, depuis quelques années, environ une vingtaine d'années, là, peut-être qu'il y a des Jeux paralympiques d'hiver également. Donc, ça fait un peu plus de temps, mais quand même, on a le droit aussi à des sports d'hiver maintenant.
Oui, il y a des nouveautés là, pour l'année 2026 au niveau des sports paralympiques d'hiver.
En fait, là, il y a un total de 5 sports qui vont être présentés. Surtout, la nouveauté, ça va être le curling double mix en fauteuil roulant. On sait qu'il y a déjà du curling, là, j'avais parlé dans d'autres chroniques précédemment l'année dernière, concernant le curling féminin et masculin. Mais là, on a rajouté la catégorie double mix, qui est un petit peu différent, en fait. Là, c'est vraiment deux personnes par équipe qui s'affrontent au lieu là, de 4 ou 5 là, habituellement.
Et donc, ça va amener un nouveau niveau de compétition qui va être différent étant donné et à mixité dans les équipes. Et évidemment, là, ça donne aussi une belle vision là, au curling adapté là, pour les gens qui ne connaîtraient pas encore ce sport-là, bien que ce soit quand même populaire. Là.
Oui, surtout, évidemment, au Canada, c'est très populaire. Là. Ce qui est arrivé aussi au départ, c'est que c'était pas un sport autant connu. Donc, ça a pris du temps avant de créer là, des classements mondiaux où est-ce que on avait des pays différents qui s'inscrivaient, des équipes. Donc, la plupart du temps, c'est pour ça que ça plusieurs sports ont mis du temps avant de se développer. C'est entre autres le cas du bobsleigh. Cette année, on avait fait une demande pour 2022 pour avoir les Jeux paralympiques avec du bobsleigh. Et en 2022, ça avait été refusé. Et encore une fois, cette année, là c'est encore le cas, on a dû refuser puisqu'il manquait de nations qui se sont inscrites pour cette année. Donc, évidemment, c'est normal puisque le bobsleigh existe depuis 2016, côté paralympique. Donc, encore une fois, on essaie de développer le sport, mais ça va venir tranquillement.
Mais il nous reste encore 4 ans, donc pour les prochains Jeux olympiques, en espérant que pour les prochains, ce soit accepté. Et effectivement, il faut développer le sport. Il faut aussi développer, évidemment, ça vient avec des programmes et avec de l'argent, avec des fonds, là, parce que ça coûte cher quand même les Jeux paralympiques. Et le développement de sport pour les personnes en situation de handicap.
Ben, et justement, c'est pour ça que, entre autres, au Canada, on est quand même choyé, puisqu'on a beaucoup de programmes. Si on est un pays qui a accès à plus de ressources, évidemment, pour pouvoir justement développer un sport, développer des athlètes, des programmes pour ces athlètes-là. Donc, heureusement, au Canada, on est une puissance paralympique présentement, et ça va être le cas encore cette année. Du côté des paralympiques en Italie, on a terminé troisième d'ailleurs pour les médailles en 2022, donc ça va être surveillé. L'autre pays, justement, très puissant en ce moment, c'est la Chine. Lors des derniers Jeux, on avait mis beaucoup d'argent, évidemment, parce que c'est ce qui s'était passé du côté de Pékin. Mais vraiment, là, pour avoir accès à beaucoup d'argent, comme tu dis, là, pour pouvoir développer des athlètes paralympiques de haut niveau et d'avoir vraiment ça du côté de la qualité. Là.
Et tu as raison, au Canada, donc les athlètes paralympiques, on a des champions littéralement dans plusieurs sports.
Oui, exactement. Puis entre autres, justement, lors des prochains paralympiques, il va y avoir 5 sports qui seront présentés dans les Jeux au total. Quand même, un total de 79 épreuves durant l'événement. Et souvent, on se demande s'il y a une égalité quand même du côté des sexes. Il y a 39 compétitions pour les hommes, 35 pour les femmes et 5 mixtes. Donc, de ce côté-là, c'est quand même relativement égal, ce qui est une bonne nouvelle. Mais c'est sûr que du côté des paralympiques, justement, on essaie de mettre de l'avant l'égalité des sexes, mais aussi l'égalité là des gens, si on parle d'handicap et de gens en santé. Donc, c'est sûr qu'on va s'arranger aussi pour être vraiment équivalent de ce côté-là. Les 5 sports, en fait, que je voulais dire, il y aura le ski alpin, le ski nordique, et le biathlon et le ski de fond ensemble, le snowboard, le curling, comme j'ai parlé tout à l'heure, et évidemment, le para-hockey sur glace, ça qui est vraiment, je pense, l'un des sports où est-ce que c'est le plus attirant à regarder, là, le para-hockey, comme j'en avais parlé aussi dans une autre chronique l'année dernière.
Oui, ben c'est sûr que ça va vite, c'est enlevant comme sport, puis c'est aussi peut-être un sport qu'on connaît bien et dont on connaît quand même les règles. Les gens peuvent s'y retrouver quand même facilement, je pense, étant donné qu'on connaît bien le hockey plus traditionnel.
Ben c'est sûr qu'un sport de hockey sur glace qu'on connaît bien, comme tu dis, c'est toujours plus excitant, puis le Canada est toujours habituellement en finale contre les États-Unis, et ce qui est intéressant, c'est ça, c'est vraiment sur pratiquement les mêmes grandeurs de patinoire. De la même manière, il y a simplement de la façon de jouer. Si on veut avec des luges sur glace qui sont différents, mais à part ça, en général, c'est pas mal les mêmes règlements et tout ça. Donc, c'est toujours très intéressant de regarder ça. Puis honnêtement, là, si vous avez la chance de regarder, que ce soit peu importe le sport paralympique cette année, là, jetez un œil, puis c'est vraiment aussi excitant de voir ça que des gens en santé pendant les Jeux olympiques.
Et il faut aussi se dire que plus on regarde, plus on accorde de l'importance à ces jeux-là, plus on aide au développement, en fait, de différents programmes, comme tu parlais tout à l'heure.
Oui, bien ça, tu as tout à fait raison. Puis c'est l'un de mes sujets, justement, que je voulais aborder par rapport à cette chronique-là. C'est que ce qui est le fun, c'est que c'est de plus en plus accepté, étant donné qu'on présente de plus en plus les sports paralympiques normalement et avec de la qualité. Donc, on voit que ça devient de plus en plus populaire. Puis comme tu dis, on enlève des préjugés également, à savoir que les athlètes sont aussi résilients là, qu'un athlète normal, vivent les mêmes réalités, même des fois sinon plus. Donc, c'est toujours intéressant de voir qu'il y a des athlètes qui sont vraiment persévérants et qui travaillent fort pour obtenir la chance d'être vus sur la scène internationale. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre en considération. Ça ajoute à l'ouverture d'esprit des gens de voir tout ce qui se passe avec les Jeux paralympiques.
Puis il faut dire aussi qu'on a l'impression parfois que ce ne sont pas des athlètes au même titre que les athlètes olympiques traditionnels, mais ces gens-là s'entraînent là, plusieurs jours par semaine, là, souvent à temps plein là, pour avoir accès aux Jeux paralympiques. Donc on parle d'athlètes et de développement qui équivalent en fait ceux des athlètes olympiques traditionnels.
Ben exactement, puis c'est ce qui est souvent très impressionnant à regarder, c'est que c'est le même travail, là. On peut considérer peut-être que des fois, ça a l'air trop facile ou que on n'a pas mis d'efforts là-dedans, mais comme je disais, c'est pratiquement même plus d'efforts pour ces athlètes-là. Parce qu'il y a beaucoup de préparation, beaucoup d'organisation. Il faut s'assurer que les installations autour des arénas, des endroits où est-ce qu'on compétitionne sont bien adaptées. Donc ça aussi, c'est important. Puis justement, ça permet à conscientiser plutôt la société que les endroits aussi où est-ce qu'on se déplace, par exemple pour des gens en fauteuil roulant, ou des gens qui leur manquent peut-être un membre ont besoin. Donc, ça devient plus accessible un peu partout aussi dans la société. Donc, ça aussi, c'est important à souligner dans l'importance des Jeux paralympiques.
C'est sûr que les villes qui reçoivent les Jeux paralympiques, elles doivent faire un effort, évidemment, au niveau de l'accessibilité universelle, là, étant donné que quand on parle de Jeux paralympiques, bien sûr, on parle d'athlètes qui ont des limitations fonctionnelles, donc qui ont besoin de certaines adaptations. On parle aussi d'un public qui peut être constitué de façon plus importante de personnes en situation d'handicap. Donc, c'est sûr que les pays hautes, les villes hautes doivent faire attention à l'accessibilité universelle, même si ça devrait être le cas, là, évidemment, là, pour les Jeux olympiques plus traditionnels et pour tous les autres sports et événements. Mais forcément, les paralympiques appellent au développement de l'accessibilité universelle autour des lieux de compétition.
Exactement. Donc, moi, je pense que c'est important de souligner parce que souvent, on sent un peu de paresse dans les instances gouvernementales pour justement amener à rendre ça accessible universellement. Donc, je pense que ça, c'est important dans la situation où est-ce qu'on vit un événement international qui devient hyper importante et qui conscientise les gens. Donc, de ce côté-là, il fallait le souligner. Puis aussi, ce que je voulais souligner, c'est que même quand on parle d'accessibilité à tout le monde, récemment, ben, la Russie et la Biélorussie, concernant des enjeux politiques, avaient été retirés des Jeux olympiques et le sont toujours. Mais du côté paralympique, on permet aux athlètes russes et biélorusses d'accéder quand même aux Jeux paralympiques. Malheureusement, cette année, il n'y a pas eu d'athlètes qui ont eu le temps suffisant pour pouvoir se qualifié pour les épreuves paralympiques de cette année, mais quand même, on a ouvert quand même cette possibilité-là à ces deux pays.
Espérons pour les athlètes que ce soit plus facile dans les prochaines années, bien qu'évidemment, on comprend les idées politiques derrière ça. Pour les athlètes, c'est quand même triste de ne pas pouvoir se qualifier pour des raisons politiques. Et on espère aussi que les mesures d'accessibilité mises en place vont rester par la suite quand les Jeux olympiques seront terminés, parce que parfois ça ne reste pas, et ça c'est bien dommage étant donné tout l'argent qu'on a mis pour rendre accessible ces lieux-là. Samuel, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se revoit dans quelques semaines pour une autre chronique.
Merci beaucoup de ton invitation et oui, on se revoit plus tard.
On s'entretient maintenant avec Jean-François Rancourt, analyste des politiques publiques et conseiller en défense des droits et la Société québécoise des déficiences intellectuelles. Bonjour, M. Rancourt.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va très bien, merci, vous.
Ça va bien. On parle d'un sujet dont on ne parle pas assez aujourd'hui. Il y a manque d'accommodation pour les personnes ayant une déficience intellectuelle à l'intérieur des prisons.
Oui, tout à fait. C'est un sujet, en effet, qu'on ne connaît pas beaucoup, mais en ce moment, à l'intérieur des prisons au Québec, où d'ailleurs il y a une surreprésentation des personnes qui ont une déficience intellectuelle, malheureusement, ben, il n'y a pas de programme adapté à leurs besoins du tout, du tout.
Et parlez-nous des conséquences de ça, parce que peut-être que pour monsieur, madame, tout le monde, on ne voit pas les besoins et les conséquences du manque de programmes dans les prisons. Pouvez-vous nous donner des exemples?
Oui, tout à fait. Ben écoutez, un des gros problèmes, en fait, pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle, c'est que les programmes de réinsertion sociale qui sont mis en place actuellement dans les prisons ne leur conviennent simplement pas. La manière que les programmes sont mis en place, les personnes ont de la difficulté à performer d'une manière qui est attendue d'elles. Donc, ça va compliquer leur réinsertion sociale, ça va la rendre beaucoup plus difficile. Ça fait qu'il y a des personnes qui ont des déficiences intellectuelles qui vont passer des peines très longues, en fait, qui vont faire leur peine dans la durée complète en incarcération, alors que d'autres personnes vont pouvoir avoir des peines réduites si elles répondent à certains critères, par exemple. Donc, ça peut vraiment compliquer la trajectoire des personnes qui ont une déficience intellectuelle puis les faire rester à l'intérieur des prisons encore plus longtemps.
Parce que si je comprends bien, donc, c'est ça, il faut répondre à certains objectifs pour se qualifier pour les programmes. Et à l'intérieur des programmes, il faut performer, entre guillemets, pour prouver qu'on est capable de s'insérer à la société, mais sans prendre en compte les besoins particuliers des personnes avec déficience intellectuelle, ça fait en sorte que ces personnes-là sont mal vues là, dans les prisons et n'arrivent pas à respecter les critères des programmes, donc font des peines plus longues, c'est ce que je comprends?
Oui, c'est tout à fait juste. C'est exactement ça. Puis, tu sais, il peut y avoir, par exemple, des programmes, je sais pas, une personne qui a une déficience intellectuelle qui aurait aussi des enjeux de santé mentale pourrait rentrer dans un programme qui touche à la santé mentale, donc pourrait travailler sur certains aspects, sauf que ces programmes-là vont pas aller toucher à la spécificité de la déficience intellectuelle. Donc, vraiment, il n'y a pas de conditions gagnantes pour favoriser la sortie des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Puis ce qui arrive après, c'est que quand ces personnes-là ressortent de prison, il n'y a pas d'accompagnement non plus. Donc, elles sont carrément laissées à elles-mêmes dans une situation qui est souvent assez difficile. Et ça crée, malheureusement, dans beaucoup de cas, une sorte de cercle vicieux où la personne va sortir de prison, puis va être ramené à l'intérieur de la prison un peu plus tard, puis ça peut venir un cercle presque sans fin.
Oui, et j'imagine qu'une partie du problème, c'est que les intervenants, intervenantes des programmes, malgré leur bon vouloir, ne sont pas nécessairement à l'aise avec les personnes en situation donc, de déficience intellectuelle ou formées à aider ces personnes-là et à comprendre leur réalité.
Oui, c'est un point très important que vous soulevez là, c'est la question de la formation. Il n'y a pas de formation obligatoire en ce moment pour les intervenants, les intervenantes dans le système carcéral. Il existe certaines formations dans certains établissements qui sont données par des personnes de bonne volonté, mais c'est pas systématique. Puis d'ailleurs, à la SQDI, à la Société québécoise de la déficience intellectuelle, c'est une des choses qu'on demande, c'est la mise en place de formations, autant de formations initiales, mais aussi une formation continue qui devrait être offerte à peu près tous les intervenants du milieu de la justice, en fait, dans une optique de prévenir la surjudiciarisation des personnes qui ont une déficience intellectuelle, parce qu'on croit que dans bien des cas, on peut éviter le passage par le système judiciaire par le biais d'autres types de programmes, d'accompagnement, par exemple, de la personne de manière plus appropriée. Parce que malheureusement, la prison, c'est pas une solution pour venir en aide puis répondre aux problématiques de ces personnes-là.
Particulièrement quand la prison à l'interne n'est pas bien adaptée à leurs besoins. Donc, à ce moment-là, on peut pas non plus bien les aider. Est-ce qu'on a une idée du pourcentage de personnes avec une déficience intellectuelle qui seraient à l'intérieur de nos prisons en ce moment?
Malheureusement, on n'a pas accès à de telles données. Il y a eu des études qui ont été faites dans d'autres pays, mais je pourrais pas vous dire en ce moment exactement. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une surreprésentation parce que On parle d'environ 1 et 2 % de la population générale qui aurait une déficience intellectuelle. Puis dans toutes les études d'autres pays, les pourcentages sont beaucoup plus élevés que ça. Mais encore une fois, une autre des problématiques qu'on a, c'est l'absence de données sur cette population-là puis sur ses trajectoires dans le système de justice. C'est une autre chose qu'on demande au gouvernement, en fait, c'est de mettre en place un système de suivi statistique pour qu'on puisse vraiment comprendre c'est quoi l'état de la situation, puis ça va évidemment nous aider à y répondre de manière plus adéquate.
Est-ce que votre recherche, votre rapport vient à d'autres constats que ceux dont on a parlé qui seraient importants de souligner?
Bien, écoutez, une chose qui est vraiment importante de comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une déficience intellectuelle qui se retrouvent en prison, qui se retrouvent dans le système de justice, qui sont parce que le filet social n'est pas assez solide puis qu'on les laisse tomber. Puis au final, c'est comme si la prison devenait l'ultime service public. C'était comme si c'était la dernière manière qu'on avait d'essayer de, entre guillemets, s'occuper un peu de personnes qui sont en situation de vulnérabilité. Alors que si on prenait mieux soin des personnes au départ, il y aurait beaucoup moins de problématiques qu'il y aurait besoin ensuite d'aller dans le système de justice, etc. Donc, c'est quelque chose qui est important de comprendre. Il faut régler, en tant que société, il faut qu'on décide de régler les enjeux de pauvreté des personnes en situation de handicap en général, incluant les personnes qui ont des déficiences intellectuelles. Il faut qu'on s'occupe vraiment de renforcer le filet social. Puis il faut qu'on pense aussi à des enjeux intersectionnels comme des personnes qui ont des déficiences intellectuelles et, par exemple, des enjeux de consommation de drogue, ou encore les personnes qui ont des déficiences intellectuelles et qui sont en situation d'itinérance, parce que malheureusement, il y a aussi une surreprésentation de la déficience intellectuelle dans la population en situation d'itinérance. Donc, renforcer le filet social, le rendre vraiment plus solide, notamment en favorisant une approche où les différents ministères se coordonnent entre eux pour pouvoir avoir des objectifs communs, des mécanismes de suivi clairs, puis qu'on finance de manière plus appropriée aussi le communautaire, notamment bon la réduction des risques, la lutte contre l'itinérance, la toxicomanie, des choses comme ça, mais en ciblant les besoins spécifiques des personnes qui ont une déficience intellectuelle.
J'ai l'impression que ça revient toujours à ça dans plusieurs enjeux, là, c'est-à-dire que le filet social qui s'effrite là, et qui mène à des problématiques beaucoup plus graves parce qu'on les a pas pris à temps. Puis évidemment, les prisons, là, je ne suis pas spécialiste des prisons, mais ça me semble pas être l'endroit où on peut vraiment prendre soin des gens, étant donné, bon, évidemment, le climat de violence, l'anxiété, tout ce qui vient avec le fait d'être en prison, c'est pas un endroit où les gens se sentent accueillis dans une ambiance bienveillante, j'imagine.
Non, exactement, vous avez raison. Puis, tu sais, on peut imaginer une personne qui rentre en prison. T'sais, c'est une période de temps où on s'attend que la personne réfléchisse, fasse l'introspection, puis en vienne à déduire, OK, mes agissements n'étaient pas corrects, maintenant je vais agir mieux dans la société. C'est le but attendu. Mais on peut pas attendre ça d'une personne qui a une déficience intellectuelle sans l'accompagner dans un cheminement. Puis en ce moment, c'est ça qu'on observe. Puis comme vous le dites, en plus, il y a un climat qui peut être très tendu, il peut y avoir de la violence, il peut y avoir bon des gangs, des choses comme ça. Une personne qui a une déficience intellectuelle va vouloir masquer sa différence pour pas être trop victimisée, mais malheureusement, les personnes qui ont une déficience intellectuelle, lorsqu'elles sont en prison, elles sont beaucoup plus à risque d'être victimes de toutes sortes d'exploitations sexuelles, financières, psychologiques, physiques. Donc, on les place dans un environnement qui est extrêmement, extrêmement hostile pour elles, qui est absolument pas approprié.
Et à ce moment-là, évidemment, si c'est hostile, bien, les personnes ne peuvent pas bien répondre au programme et à répondre aux attentes qu'on a envers elles parce qu'elles sont en mode survie, là, finalement, j'imagine.
Oui, c'est exactement ça. Elles sont en mode survie. Puis, dans certains cas, ça peut amener de la désorganisation. Oui. Et là, on est dans le personnel carcéral, on n'est pas préparé à bien réagir à une personne qui se désorganise. Puis dans ce cas-là, la réponse peut être extrêmement violente. Il y a eu un cas dans les derniers mois qui était celui d'une jeune femme qu'on a surnommée Florence.
Oui, oui.
Bon, vous en avez entendu parler. Pour rappeler aux auditeurs, c'est une personne qui avait été mise en prison parce qu'elle avait volé de la nourriture. Elle vit avec le syndrome de Prader-Willi, ce qui fait qu'elle ressent toujours la faim. Donc, elle avait été un peu poussée à trouver de la nourriture. Elle en avait volé chez les voisins. On l'a mis en prison. Elle s'est désorganisée, puis par la suite, la réponse, ça a été de la mettre au trou, dans une cellule d'isolement, où elle a passé plusieurs jours. c'est complètement inhumain comme traitement, puis ça montre vraiment à quel point on n'est pas prêt à prendre soin de ces personnes-là lorsqu'elles arrivent dans la prison, mais pas du tout, du tout.
Et on voit ça comme étant une réponse à un comportement violent, donc de mauvaise foi de la part des personnes, alors que parfois, c'est simplement leur cerveau et leurs besoins qui sont pas bien compris.
Exactement. C'est des personnes qui sont dans une situation de détresse totale, qui sont démunies, qui se retrouvent avec aucun repère, avec pas de personne à qui s'accrocher, qui se retrouvent vraiment dans une situation difficile. Puis la désorganisation en soi peut être juste une réponse tout à fait naturelle à cette situation-là. Sauf que, comme vous mentionnez, on va la voir comme un comportement dangereux ou atypique ou auquel il faut qu'on réponde par une punition. Mais c'est pas du tout le cas, puis c'est pas l'approche qui devrait être privilégié du tout, du tout. Puis c'est pour ça qu'on pense que les personnes qui ont une déficience intellectuelle, la prison, c'est pas leur place. Puis autant que possible, il faut essayer de déjudiciariser. Mais après, il y a des cas où les personnes peuvent représenter un risque pour la société. Il faut évidemment quand même aussi s'occuper de ça. Mais on croit qu'il y aurait des alternatives à la prison, notamment des unités en milieu clinique qui pourraient être beaucoup plus adaptées pour ces personnes-là. Donc, il faut penser aussi à comment on peut améliorer la situation. La formation du personnel, c'est un premier point. Adapter le système de justice aussi en général pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle pour éviter que certaines personnes se retrouvent incarcérées parce que elles n'ont pas compris le processus, par exemple, en cours, avec les avocats, oui. Le juge, ça peut être très compliqué, même pour une personne qui n'a pas de déficience intellectuelle. Donc, nous, on croit qu'il faudrait qu'il y ait accès, notamment, à des accommodements plus importants, par exemple, de l'accompagnement en langage clair lors des audiences, mais toujours dans une optique de permettre à la personne au moins de comprendre ce qui se passe, puis de pas, par exemple, déclarer quelque chose qui pourrait la mettre dans le trouble par la suite.
Donc, Monsieur Rancourt, merci beaucoup d'avoir été avec nous et merci de votre travail sur cet enjeu-là qu'on connaît peu, mais qui, visiblement, là, est un enjeu important. Donc, on pourra en reparler là, éventuellement quand vous aurez peut-être de nouvelles données, si on arrive à avoir des données probantes sur la question. Merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup pour l'invitation.
Donc, c'était Jean-François Rancourt, analyste des politiques publiques et conseiller en défense des droits de la Société québécoise des déficiences intellectuelles. Et après la pause, on s'entretient avec Mme Émilie Charbonneau, vice-présidente de l'APTS pour la dégradation des soins des personnes aux personnes aînées.
Vous écoutez Sans détour.
Thank you.
S'entretien maintenant avec Mme Émilie Charbonneau, première vice-présidente de l'APTS et travailleuse sociale. Bonjour, Mme Charbonneau.
Bonjour, ça va bien?
Ça va bien vous-même?
Oui, ça va bien, merci.
Parlez-nous d'abord de l'APTS, qui est l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux. Quelle est votre mission à l'APTS?
En fait, on est une organisation syndicale là, qui représente, comme vous l'avez mentionné, là, les techniciennes et professionnels du réseau de la santé et des services sociaux. On représente plus de 67 000 membres à travers le Québec. On est à majorité féminine, donc plus de 80 % des membres sont des femmes. Puis, en fait, on représente principalement les travailleurs sociaux, comme vous l'avez mentionné, puis le type d'emploi donc que je suis. Mais on a également tout ce qui concerne les plateaux techniques, donc l'imagerie médicale, les laboratoires, la nutrition. Donc, on couvre très large.
Et on vous a invité particulièrement parce que votre organisme a mis en place une campagne et a publié une lettre ouverte pour dénoncer la régression de la qualité des soins aux personnes aînées et en perte d'autonomie. Donc, pouvez-vous nous parler de cette campagne-là et des enjeux que vous avez soulevés?
Oui, en fait, la campagne qu'on a mise sur pied, ça s'appelle « Regarder nos vieux jours en face ». C'est vraiment pour lever le voile, en fait, sur comment on vieillit au Québec, puis les services qu'on reçoit quand on est en perte d'autonomie. Je pense que, on croit que ça devrait pas être un privilège d'avoir accès à des services qui sont équitables pour tous. Qu'est-ce qu'on a constaté avec les années puis avec les intervenants qu'on parle sur le terrain, c'est que trop souvent, les services s'effritent sous le poids du sous-financement puis de la privatisation. Puis, cette campagne-là, voulait mettre vraiment à jour, en fait, briser le silence et les tabous, puis faire entendre la voix des aînés, des gens prestataires de services, de leurs proches, en fait, pour exiger un réseau public fort, humain, accessible, en fait.
Et on parle beaucoup, évidemment, des coupures dans les derniers mois, dans les dernières années même. Pourquoi les personnes aînées, les personnes en perte d'autonomie sont celles qui écopent beaucoup de ça?
Bien, en fait, qu'est-ce qu'on a pu constater avec les années, là, c'est surtout une accentuation des besoins, puis un désinvestissement. On sait, l'hébergement, le maintien à domicile, c'est des sommes, en fait, qui sont colossales. Le gouvernement en parle souvent. Puis c'est souvent le premier endroit où ce qu'on a des coupures dans le soutien à domicile, puis dans l'hébergement. C'est la proportionnalité de gens qui ont besoin de soins versus les ressources qui sont disponibles. Nous, ce qu'on dit, c'est pour pallier à ça, assurons-nous que ça soit financé adéquatement. Nous, on croit que le désinvestissement, là, comme vous le mentionnez, engendre là, des pertes de services puis des inégalités là, dans l'offre de services.
Il y a de plus en plus de besoins, mais il y a de moins en moins de ressources, c'est ce que je comprends.
Tout à fait. Tant les ressources financières, je vous dirais que les ressources humaines.
Oui.
Exact.
Bien, j'y arrivais, en fait, vous qui représentez les travailleurs, des travailleuses du milieu de la santé, en quoi ces personnes-là sont affectées aussi dans la qualité de leur travail, dans la qualité de leur bien-être au travail par rapport aux coupures?
Bien, en fait, ce que nos membres nous disent, c'est surtout la détresse dans laquelle ils se retrouvent. En fait, ils sont devant des situations complexes. Des situations où les gens sont en souffrance, puis ils sont pas en mesure de leur donner les services qui sont adéquats. On leur demande de diminuer, par exemple, la qualité des services ou, par exemple, de remplir 1 million de formulaires pour être capable de donner un minimum de services. Parfois, on met les gens devant des dilemmes qui sont inacceptables. Donc, par exemple, les humains là, qui sont derrière ça, là, nos intervenants, sont souvent là parce qu'ils ont à cœur de donner des services de qualité, puis qui ont à cœur le bien-être des gens, puis on les met dans une situation où ils ne sont pas capables de remplir pleinement leur travail, en fait. C'est surtout ça, c'est toute la détresse déontologique derrière les intervenants que soulèvent ces coupures-là.
Et souvent, les coupures là, sont faites par des gens qui sont au gouvernement, qui sont dans des bureaux, qui sont des fonctionnaires qui n'ont pas nécessairement accès à la réalité du terrain.
Non, ben c'est ça, malheureusement. Hein, le soutien à domicile, c'est beaucoup de chiffres. On demande à nos intervenants de compléter des statistiques, des formulaires, mais au-delà des chiffres là, sur lesquels le gouvernement se base pour faire ses prévisions budgétaires ou ses coupures, il y a des humains. Puis ben c'est ça que la campagne veut mettre en lumière, en fait, l'humain derrière les chiffres. C'est souvent ça qu'on oublie, puis je pense que c'est important de le rappeler.
Oui, ben en fait, effectivement, on oublie, puis c'est facile de ne pas en tenir compte, hein, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de choses à gérer, beaucoup d'enjeux, beaucoup de problématiques. Donc sur papier, on peut enlever un million ici, un million là, et ça paraît pas trop, alors que dans la réalité des choses, pour les travailleurs, les travailleuses et pour les personnes qui reçoivent ces soins-là, ça fait une énorme différence.
Ben tout à fait. Tu sais, un million qu'on enlève, c'est parfois un travailleur de moins sur le terrain, des services de moins donnés, une décision encore déchirante pour les gens. Par exemple, au niveau de l'hébergement, compte tenu qu'on le privatise de plus en plus, ben les gens sont mis devant des dilemmes inacceptables comme rester près de la maison ou être complètement déraciné parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer cet hébergement-là. Je pense que c'est ce visage-là qu'on veut montrer, ces choix déchirants-là qu'on veut montrer, parce que c'est pas juste une colonne de chiffres, c'est aussi des humains, des besoins, des détresses, puis des gens qui ont besoin d'être entendus.
Évidemment, la situation se dégrade là, depuis plusieurs années, on n'arrête pas de le dire. Comment on fait pour rectifier le tir à partir de maintenant?
Ben en fait, comme vous l'avez mentionné, moi je suis des travailleuses sociales, j'ai commencé ma carrière au cité à domicile. Il y a 10 ans, c'était inacceptable. On se disait ça va aller mieux. Force est de constater que c'est pas le cas. Il y a eu un bref réinvestissement dans le moment de la pandémie pour aussitôt après retourner dans une période d'austérité. Je pense que le message qu'on doit envoyer maintenant au gouvernement, c'est faire preuve de courage politique, puis de mettre les ressources là, ils sont vraiment nécessaires. Puis s'assurer, en fait, d'un financement durable et pérenne et stable pour nos gens qui sont en soutien à domicile, que ce soit les intervenants, que ce soit les gens qui reçoivent les services, je pense que vieillir dignement, ça devrait pas être un luxe.
Non, donc, effectivement.
Non, exact.
Et qu'est-ce que nous, tu sais, monsieur, madame, tout le monde, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation alors qu'on n'est pas aux commandes du gouvernement?
Moi, je pense que c'est de maintenir les prises de parole. Le gouvernement demande souvent à la population, en fait, de prendre parole, que ce soit dans le dépôt, par exemple, de leur prochaine politique de soutien à domicile. Je pense que c'est d'être vocaux, d'utiliser les différentes tribunes qui nous sont données pour donner la parole à ces gens-là qui reçoivent les services ou même les intervenants qui donnent ces services-là, parce que je pense que c'est une réalité qui est méconnue. Puis qui gagne à être connaître, qui gagne à être connu en fait, parce que tout le monde va vieillir. Puis tout le monde le vit de près ou loin cette réalité-là. Donc, de pas hésiter à prendre parole quand c'est possible, puis de pas hésiter non plus quand il y a des campagnes comme on fait là, des pétitions, de les appuyer, d'en faire la promotion pour justement que le maximum de gens puissent savoir qu'est-ce qui se passe.
Justement, en terminant, Mme Charbonneau, si on veut en savoir plus sur votre campagne et sur vos services en général, où est-ce qu'on peut trouver ces informations-là?
Bien, en fait, je vous invite à aller sur notre site Internet, puis de cliquer en fait sur notre onglet de campagne politique et si on osait pour vrai, sous l'onglet « Regardez nos vieux jours en face », vous allez avoir une panoplie d'éléments à regarder, que ce soit nos articles, nos lettres ouvertes, les témoignages qu'on a reçus. On a également fait des vernissages là à travers le Québec pour lever le voile sur les réalités des intervenants, mais aussi des gens qui recevaient les services, mais aussi des proches aidants. Donc, c'est un des endroits où vous pouvez retrouver tout ce matériel-là.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc, vous êtes première vice-présidente de l'Alliance du personnel professionnel technique de la santé et des services sociaux. Et on va aller voir ce que vous nous avez concocté sur votre site Internet. Merci.
Mais merci beaucoup pour votre intérêt. À la prochaine.
À la prochaine.
Au revoir.
On se retrouve maintenant pour la revue de presse. Et on commence avec une nouvelle qui va être des suggestions hein, pour vos cadeaux de Noël, entre autres, ou pour différents cadeaux et lectures pour vous-même. Donc, des livres qui donnent la parole aux personnes aînées. On commence donc par Jeannette Bertrand, qui a sorti évidemment un ouvrage... Il y a quelques mois de cela, qui s'appelle « 100 ans d'histoire, vous m'avez raconté le Québec ». Évidemment, Mme Bertrand, la figure marquante du paysage médiatique québécois, nous offre son regard unique sur l'histoire des Canadiens français et la Révolution tranquille. Donc, c'est un des livres qui peut être intéressant à lire pour connaître un peu mieux l'histoire et pour connaître l'histoire au travers des yeux de cette grande dame-là. Aussi, un petit manuel anti-préjugé de l'auteur et psychologue française Véronique Caillado, publié en 2022, un ouvrage intitulé « Tu comprendras quand tu seras vieux, petit manuel anti-préjugé grand âge », qui vise à déconstruire justement les préjugés sur le vieillissement et à changer le regard de la société sur les personnes aînées. Donc, peut-être que on devrait faire lire ça à nos gouvernements, je dis ça comme ça. Donc, c'est un essai qui s'engage frontalement contre l'âgisme et les stéréotypes négatifs et le vieillissement de la population dans la société. Il a été publié donc aux éditions du Palio, que vous pouvez retrouver sur Internet ou dans les meilleures librairies. Après, on a le livre d'Alexandre Sirois et de Judith Lachapelle qui s'intitule 80-90-100 à l'heure ou 14 octogénaires et nonogénaires, inspirant dans un recueil de textes avec 14 entretiens qui mettent en vedette justement ces personnes-là qui ont eu des vies remarquables et qui continuent d'être actives, passionnées et engagées dans leur domaine respectif. C'est un livre qui est publié aux éditions de La Presse, si vous voulez le retrouver. Aussi, on parle d'une nouvelle là, qui me fait sourire. Donc, à l'occasion du Power des Premières Nations, de la Première Nation de Big River cet été, un Power, c'est un rassemblement de célébration là, pour les personnes qui viennent des Premières Nations. Des parents ont tenu un événement unique en l'honneur des personnes en situation de handicap de leur communauté. Il faut dire que dans un power, donc, les personnes font des danses de groupe, donc, où les gens doivent être coordonnés là, les uns aux autres. Et évidemment, pour des personnes en situation de handicap, là, c'est peut-être le plus difficile, là, dépendant évidemment du handicap, de suivre le rythme et de faire tous les mouvements du reste du groupe. Ce qui fait que les personnes en situation de handicap étaient exclues de ce type de célébrations-là, qui sont pourtant très importantes pour les Premières Nations. Et donc, les parents d'enfants en situation de handicap ont décidé de créer un événement spécial qui a été organisé pour permettre à ces enfants-là de faire partie de la danse et de s'exprimer en dansant à leur façon, bien sûr, selon leurs capacités, selon les types d'handicap aussi, mais ça pousse une certaine ouverture, même au niveau là, des rites culturels qui montrent qu'on peut en fait s'adapter aux personnes en situation de handicap et accueillir tout le monde, peu importe le type d'handicap. Donc, c'est quelque chose qui pousse à réfléchir là, pour nos propres événements, à savoir est-ce qu'il faut toujours donc garder la même formule, si la formule est... ne correspond pas, en fait, aux besoins d'insertion et d'ouverture en variante des années courantes. Donc, je pense que peut-être qu'il faudrait revoir nos façons de faire parfois pour mieux s'adapter à la diversité actuelle dans la société. On parle aussi, donc, du premier astronaute en situation d'handicap à la NASA. Donc, on parle de février 2025 où l'Agence spatiale européenne a annoncé que le Britannique John McFarlane avait été choisi parmi 22 500 candidats pour devenir le premier para-astronaute. On veut de lui qu'il embarque éventuellement sur de longues missions spatiales et qu'il vive dans la station spatiale oui, internationale. C'est donc le premier astronaute en situation d'handicap qui est accepté à NASA, qui a fait donc tout le programme d'entraînement qui était requis et donc qui s'est qualifié là, pour de futures missions, bien qu'il n'a pas encore été, au moment où je vous parle, là, envoyé en mission. Il pourra l'être, il le sera, en fait, devrais-je dire, dans les prochains mois. Et donc, ça, évidemment, ça porte espoir pour une certaine ouverture. Il faut dire que M. McFarlane, donc, a un membre en moins, hein, donc ce n'est pas toutes les personnes en situation de handicap, bien sûr, qui pourraient se qualifier au programme d'entraînement de la NASA, qui sont extrêmement physiques, hein, qui sont très demandants. Par contre, c'est la première fois qu'on accepte que quelqu'un avec un membre en moins fasse ces... ces entraînements-là, et c'est la première fois qu'on sélectionne quelqu'un qui a un membre manquant. Donc, ça ouvre quand même la porte par la suite à d'autres types d'handicap et peut-être à une meilleure ouverture, évidemment, de la part d'un agent, mais aussi de la part peut-être de d'autres programmes d'entraînement. Donc, on verra par la suite ce que M. McFarlane pourra donner comme service à un agent et sur quelle mission il sera envoyé, c'est à suivre. Et finalement, on termine avec Aîné Avisé, qui fête ses 15 ans. C'est un programme qui est porté par FADOQ, et donc avec la Sûreté du Québec et le CIUSSS du centre-ouest de l'île de Montréal. Aînés avisés, en fait, c'est un programme qui aide, justement, comme son nom l'indique, les personnes aînées à être avisées pour être plus au courant des fraudes qui sévissent et être moins victimes de fraudes. Et on entend parler, hein, vous le savez, dans les derniers mois, énormément de fraudes qui sont faites aux personnes aînées. Et c'est donc un des programmes qui a été mis en place, entre autres, par l'ASQ, par le CIUS et par la FADOC, pour essayer de réduire la vulnérabilité des personnes aînées au type d'arnaque auquel elles font face. Donc, c'est un programme qui a commencé à Sainte-Adèle, alors qu'on se rendait compte, en fait, que les personnes aînées n'étaient pas outillées pour répondre aux multiples fraudes, ou multiples tentatives de fraude, devrais-je dire, qu'elles recevaient, parce que c'est des personnes, évidemment, qui sont particulièrement ciblées par les fraudeurs, parce qu'elles sont justement moins informées sur la technologie, entre autres, moins informées sur les fraudes qui ont cours. Et donc, malheureusement, elle est plus facile à fourvoyer. Ça a commencé il y a 15 ans, donc dès 2008, mais plus spécifiquement donc en 2010, en programme provincial qui s'appelle maintenant Aînés avisés. Donc c'est parti en 2008, un projet local pour ensuite devenir un projet provincial. On se rend compte que un aîné bénévole et un policier, c'est quelque chose qui est gagnant, donc on prend des aînés bénévoles qu'on forme pour être plus au courant des tentatives de fraude et des de ce qui fait la vulnérabilité des personnes aînées. Et on fait des moments de rencontre et d'échange avec différentes personnes de la communauté, personnes âgées, donc, pour favoriser l'échange avec ces personnes-là, pour les aviser de ce qui se passe, pour aussi ouvrir le dialogue et leur permettre d'avoir quelqu'un vers qui se tourner, si jamais ils ont des questions, des préoccupations. Et évidemment, ça a commencé il y a 15 ans, mais c'est toujours d'actualité. C'est même d'autant plus d'actualité parce qu'il y a plus en plus de fraudes. On parle des fraudes à l'investissement, des publicités en ligne avec de faux représentants. On parle aussi, évidemment, de la fameuse fraude de petit-fils, grand-parent, donc quelqu'un qui appelle sur la ligne téléphonique pour dire qu'il y a un problème, qu'il a besoin d'argent, et donc qui pousse les personnes aînées à dévoiler leur carte de crédit ou leur numéro d'assurance sociale, par exemple, pour aider une personne en détresse, en faisant passer, évidemment, la personne à l'autre bout du fil pour une personne que la personne âgée connaît. Les meilleurs conseils pour ça, ben, c'est de connaître évidemment les stratagèmes des fraudeurs pour les détecter. Il faut aussi connaître la technologie et savoir que, par exemple, le numéro qui est affiché sur l'afficheur peut se modifier, savoir que la voix des gens peuvent se modifier également, savoir qu'on peut créer de faux profils sur les applications de rencontre et mettre de fausses plateformes d'investissement. Donc, de savoir que tout ça existe, ça nous porte à être évidemment plus vigilants. Et on parle des personnes âgées, bien sûr, parce que c'est des personnes, je le disais tout à l'heure, qui sont particulièrement vulnérables. Mais c'est quelque chose à connaître pour monsieur, madame, tout le monde. Hein, on est tous vulnérables à ce type d'arnaque-là. Évidemment, les arnaqueurs comptent sur un moment souvent de stress pour attaquer. Alors, on ne réfléchit pas, on fait les choses rapidement et par la suite, on se rend compte, évidemment, qu'on a été fraudé ou on commence à avoir des doutes, mais souvent, il est trop tard, le temps que la police ou les instances gouvernementales interviennent, bien, il y a mal est fait. Donc, si vous avez des préoccupations par rapport à ça, il faut évidemment en parler. Il faut aussi être vigilant par rapport aux personnes aînées ou aux personnes qui sont particulièrement à risque pour ce type d'arnaque-là. Donc, si vous avez des doutes par rapport aux activités des personnes de votre entourage, il faut dénoncer la situation, il faut détecter et il faut dénoncer la situation tant qu'à dénoncer pour rien et de se rendre compte que finalement, quelque chose de légitime et non pas une arnaque, mais en cas de doute, il faut en parler, il faut appeler les instances concernés. Et donc, en cas de doute, il faut toujours téléphoner et en parler. C'est la meilleure façon donc, de prévenir des fraudes et de tout ce qui suit les fraudes, donc toute la détresse là, qui peut être causée par ces fraudes-là. C'était donc Isabelle Pellerin pour Sans détour. On se revoit la semaine prochaine. Bonne semaine tout le monde.